Faudra que ton angoisse disparaisse, se passe. Voilà l'intraveineuse, la solution à cause. C'est ça la médecine, me faire la guillotine. C'est ça la médecine, me faire la guillotine. C'est ça la médecine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Aujourd'hui, avec le CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie. Bonjour André.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je vais intervenir sur quatre points. Je vais vous donner l'emploi du temps, enfin l'ordre du jour pour cette émission. Tout d'abord, un billet de Natacha Guillet pour SNG du 24 mars qui m'a été répercuté. D'autre part, le bouquin de Nicolas Demorand, matinalier sur France Inter, sur sa bipolarité, très soutenu par une personnalité bien connue des médias qui est très très néo-réactionnaire hein, quand même. Bien, mais enfin, ce coming out est quand même très important, quoique. Ensuite, une info d'Ospi Media sur un programme de la FIRA lié au fonds de la CNSA, c'est-à-dire les fonds dégagés sur le budget de la sécurité sociale pour le handicap, en vue d'améliorer la notification des droits des patients en soins sans consentement. Une étude très documentée à laquelle on m'a demandé de participer, j'ai refusé, hein, bien, où on a un rapport pour envisager d'améliorer cette information sur les droits des patients en soins sans consentement, laquelle devait être acquise pratico-pratique depuis la loi du 27 juin 90, depuis 35 ans. Les aliénés attendent depuis 1838 qu'on respecte leurs droits, ils peuvent toujours attendre. Citation de Coluche.
Ah oui.
Enfin, quatrième information, purement juridique, une jurisprudence de la Cour de cassation en matière de fugue. Un patient en fugue sur programme de soins sur arrêté préfectoral depuis un an. Qu'en dit la Cour de cassation ? Doit-on donner main levée ou pas ? Et la Cour de cassation, bien sûr, est très nuancée, très voilà. Alors que sous l'ancien régime, et je vais citer une jurisprudence en date de 89, la main levée pour une personne en programme de soins depuis longtemps qui ne fait plus parler d'elle, ça ne posait pas de souci. Donc alors, la première information, donc SNG, donc Natacha Guillet, nous fait savoir, j'ai eu l'information par Philippe Maugiron, qu'elle critique le fait que la maison perchée, une prestation très huppée, très couverte par l'ancien ministre de la Santé, très valorisée, avec le grand patronat derrière, une certaine grande bourgeoisie. L'association Maison Perchée a recruté une journaliste très féministe, très Lorraine Bastide, comme marraine de leur promotion de personnes en formation future à la pérédance, ce qu'elle critique, et elle expose ses arguments. Donc, je relaye mon billet ici, je cite Natacha Guillet, pour les personnes concernées par le sujet, et qu'on arrête de nous griller la parole. C'est Natacha Guillet qui parle en tant que personne inconnue de la psychiatrie lourde, ayant été détruite en cours d'enfance en psychiatrie, et menant un combat personnel quand même. Et qu'on arrête de nous griller la parole, la légitimité, tous les espaces rares où être convié, entendu, écouté, considéré, pris au sérieux. L'association La Maison Perchée vient d'annoncer avoir recruté Lorraine Bastide comme marraine de leur promotion de personnes en formation future à la pérédance. Aussi, j'en appelle à votre indignation en connaissance des faits, des comportements et des prises de position de cette personne médiatique. Lorraine Bastide, journaliste connue, très en vogue, féministe, etc., surfe sur plusieurs causes parallèles sous sa casquette principale de journaliste en fonction de la propension lucrative et de mise en lumière personnelle de tel ou tel combat en vogue. Ses comportements et son discours n'ont pas ou si peu à voir avec ce qu'elle prétend défendre et combattre, tour à tour la santé mentale, le féminisme, l'écologie. C'est une personne dont les pratiques ont d'ores et déjà été dénoncées dans les médias et par ses victimes, ainsi que lors d'enquêtes à charge, notamment par Mediapart, stigmatisation, discrimination, comportement autoritariste et d'exploitation d'individus pour son intérêt propre, validisme, patriarcat, autant de dysfonctionnements sociétaux qu'elle dénonce tout en les incarnant. Il semble qu'elle ait une relation de domination très puissante avec autrui, d'exploitation. C'est une patronne, hein, c'est voilà. Alors, donc, je n'évoquerai ici qu'un seul exemple relatif à son podcast Folie Douce. Je donnerai mon point de vue un peu plus tard. D'accord. Quant au traitement qu'elle a réservé à 13, autrice du livre Charge et rappeuse, que Lorraine, Lorraine Bastide a convié à venir parler de l'expérience au pays psychiatrique. Suite aux remarques de 13 sur la façon dont le montage avait manipulé l'interview pour occulter les propos tenus par la journaliste elle-même, Lorraine Bastide a coupé la communication en prétextant qu'elle ressentait le besoin d'une mise en protection. Elle a restreint la possibilité de s'exprimer de son invité sur le compte Instagram Folie Douce, tout en poursuivant la promotion de cet épisode de son podcast, puis elle a préféré supprimer l'épisode avec 13 plutôt que de diffuser l'interview telle qu'elle s'était déroulée et a inventé comme motif, car des internautes s'interrogeaient, que c'était pour des raisons indépendantes de leur volonté. Technique bien rodée pour préserver son image en faisant porter la responsabilité de la censure de l'épisode à 13 alors que cette dernière était venue exactement pour partager son témoignage. Peut-être un peu trop trash pour la journaliste, peut-être un peu trop dur. Hein. Je ne souhaite à aucune personne concernée d'être coupée au montage quand le propos aussi sensible et intime soit-il ne plaît pas à son interlocutrice, soit censuré, humilié, infantilisé, ce que ces propos soient réemployés au service et pour mettre en valeur la personne hypocrite, manipulatrice, malhonnête, égocentrique qui use de ses privilèges pour exercer son pouvoir sur qui l'interview ou retourner contre elle en utilisant sa casquette de personne avec troubles psychiques pour mieux la décrédibiliser, l'écraser en s'appuyant sur des références vieillottes et paternalistes. Bref, je ne souhaite à personne cette maltraitance alors qu'elle ou il aurait eu le courage de venir parler de son vécu intime sur un média de grande audience. Il n'est franchement pas souhaitable que des prochaines générations de pères aidants soient initiées aux missions d'entraide sous la chape promotionnelle d'une personne si peu crédible, incarnant des valeurs humaines moindrement associables aux problématiques inhérentes aux dispositifs d'accompagnement dans les troubles psychiques et aux personnes qui s'y retrouvent bien souvent démunies de leurs droits. C'est aussi le moment de se mettre dans la peau et dans la tête de cette journaliste engagée et de se poser la question avec quels étranges défauts d'humilité, de moralité, de sens éthique une personne peut, en l'espace de quelques mois, manipuler puis censurer les paroles d'une personne psychiatrisée qu'elle a conviée à venir parler dans son média pour ensuite endosser le rôle d'ambassadrice pour une nation composée de la démultiplication de ces mêmes profils de personnes ayant un vécu sensible. La situation en appelle au bon sens, au sens éthique, à la dignité, aux valeurs qui entourent les métiers du soin et de l'entraide, aussi alternatives soient-elles, quant au choix rendu public par l'association La Maison Perchée et leur impact. Alors, citation, quelques articles sur Lorraine Bastide, critique d'ailleurs, Manifesto 21, parlons de santé mentale, folie douce et discours tiède, Marianne, des podcasts féministes accusés de capitaliser sur le dos des femmes, Mediapart, les astuces des tuyaux pour mal payer, voire pas du tout, Lorraine Bastide de la poudre aux yeux, franc-tireur, Marianne, ces entrepreneuses féministes mises en cause par leur management et les Inrocks. Donc c'est là la critique d'une utilisation par des gens de médias, par des gens de pouvoir, de gens qui en ont pris énormément dans la figure, dans les institutions psychiatriques et qui utilisent la détresse humaine, hein, finalement. Voilà. Moi, j'en avais tiré la leçon suivante, de boycotter toutes ces tribunes, hein, c'est connu. Et je me suis contenté, la décennie précédente, de faire de la représentation d'intérêt parce qu'on avait fait bouger le terrain, mais j'ai refusé d'aller au-delà. Et les personnes qui m'ont joint se sont fait mais sévèrement engueuler, hein. C'est parfois, hein, notamment je reviendrai dessus sur la notification des droits aux patients soit sans consentement, sur le programme FIRA, où j'avais été contacté de façon, à mon avis, inopportune. Bon, donc première information. Et alors, il faut savoir que la Maison Perchée est une prestation qui a été très, très, très haut de gamme. Hein. Enfin, très upper class, comme disent les Américains. C'est pas la classe moyenne ou la classe populaire plat, ou même encore les défavorisés, la cour des miracles. C'est-à-dire ce que nous sommes, nous, les psychiatrisés, c'est le bas du bas du bas de la société, ouais. N'est-ce pas, du côté du caniveau. Non, là, c'est vraiment les upper class ayant eu dans leur parcours. Parce que les dealers ne ciblent pas n'importe quel public. C'est pas pour rien que certains métiers de la très haute bourgeoisie sont très ciblés par les dealers. Je pense notamment aux traders. Les... Oui.
Je sais pas, qu'est-ce que tu entends par les dealers, les traders, c'est, comment tu définis ce...
Il y a des métiers qui sont où la cocaïne est quasi obligatoire. Voilà, c'est tout. Et c'est connu des traders. C'est connu des traders, hein, notamment, hein, je veux dire. Les parties fines et les soirées auprès du PDG, machin, on en a entendu parler. Hein, mais enfin, bon, restons-en là. Moi, personnellement, étant jeune, alors que quand j'ai fumoté pendant 2 ans, 3 ans du cannabis, j'avais pas de quoi. Et j'avais le réflexe de ne pas avoir de quoi. Donc, première information. Alors, deuxième information, monsieur Nicolas Demorand, matinalier sur France Inter, dévoile dans un livre Intérieur Nuit sa bipolarité et son apprentissage de la fragilité avec son livre Intérieur Nuit. Il part de ses affres des affres de subir la bipolarité avec les phases hautes, les phases basses. Alors, une autre critique quand même avant de regarder la synthèse du monde. C'est très important, hein, pour la déstigmatisation des personnes vivant avec des troubles mentaux et se débattant avec les circuits psychiatriques, que des gens bien placés, haut placés dans la société, dans le monde des médias, parlent ouvertement de pathologie mentale. C'est très important. Bien, parce que ça participe de la déstigmatisation et ça fait que la parole peut se libérer et qu'il y ait de moindres persécutions pour les gens qui, précisément, ne sont pas haut placés, quand même. Bien, mais il n'en reste pas moins qu'on autorise ces personnes à l'américaine, et je pense à une autrice américaine sur la bipolarité qui a publié dans les années 80-90, qui venait de la haute société, Kay Jamison, qui était une bipolaire et qui a raconté, qui a participé à impulser les mouvements américains et anglo-saxons des malades, hein, bien, et qui a longuement parlé dans un ouvrage de sa bipolarité et des traitements. Et là encore, on voit que Nicolas Demorand valorise le dépakote. Valorise les thymorégulateurs en tant que, selon la doxa, des traitements à prendre à vie.
Quand on lit son interview sur Le Point, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que il critique aussi certains traitements des traitants de la bipolarité, pour en avoir fait l'expérience, il y a beaucoup de médicaments qui ont été inefficaces selon lui.
Donc, oui, mais il ne revient pas sur une chose, parce qu'il a été très bien entouré. Il a été très bien entouré.
Hein.
Il a eu des thérapeutes. Bon, il ne revient pas sur un dogme qui pose problème pour les personnes atteintes de bipolarité. Ça pose un véritable problème, également pour les autres pathologies, ces traitements sont à prendre à vie.
Oui.
Il ne revient pas là-dessus.
Ah, ça, c'est... Mais c'est pas remis en question. Bon, après, concernant la bipolarité, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quand même difficile de s'en défaire... Vraiment facilement, quoi. Mais
c'est parce qu'on n'opte pas pour d'autres stratégies. On pourrait très bien opter pour d'autres stratégies, et notamment avoir il y a des écoles d'éducation thérapeutique où on apprend à le faire, et précisément elles ne sont pas valorisées par les firmes pharmaceutiques, c'est-à-dire avoir en réserve des médicaments que l'on diminue bien quand on peut, et même que l'on diminue graduellement quand on se sèvre, et avoir ce réflexe en se connaissant soi-même, notamment par une étude attentive de soi, et notamment par le journal de bord et le journal intime, notamment, de voir quand la phase monte et qu'à ce moment-là, on se médique.
Oui, si on en a la liberté, en fait.
Oui. C'est ça. Oui, mais ça suppose toute une éducation dans le sens de... Oui. Or, l'éducation thérapeutique prévalente est celle que le GHU et les firmes pharmaceutiques valorisent, c'est pas dans ce sens-là. Hein.
C'est ça. Bon. On n'est pas comme en Finlande, par exemple, avec le Open Dialogue.
C'est ça, c'est ça. Donc, sous cette réserve, hein, alors, ce que disait très bien Antoine, enfin, ce camarade au CRPA, à voir maintenant comment se poursuivra sa carrière après ce coming out et comment son message sera porté. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que si encore des gens haut placés dans la hiérarchie sociale peuvent avoir un suivi, un accompagnement psy de haute qualité, si tu veux, les gens du bas de tableau de la société, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Hein, vraiment. Et alors, de ce côté-là, c'est... Alors, je dois dire que c'est quand même intéressant que Le Monde est consacré à travers Audassonville et Solène de Royer. Solène de Royer est une journaliste spécialiste des études de cas des personnes qui tiennent des rôles politiques importants en France. des lecteurs disent « Mais qu'en pense Solène ?» Que je suis abonné au Monde. Je commence à... Enfin, moi, je sais pas, c'est pas le tableau de la société. Je fais partie des gens qui, alors que j'étais dans la grande pauvreté dans les années 80, tout au bord des marchés des restaurants du cœur, je lisais tous les jours les cours de la bourse pour essayer de savoir comment ça marchait.
Donc, Nicolas Demorand, c'est vrai qu'on est curieux quand même de lire son livre, oui. Comprendre un peu comment on vit avec cette maladie.
Toutes les façons, c'est un témoignage.
Oui. Et d'ailleurs, on avait lu à l'entonnoir un autre livre parlant de ça, d'un auteur allemand qui s'appelle Thomas Mell, et qui raconte ses phases maniaques. De façon vraiment littéraire, très bien. C'est très bien écrit. Le monde dans le dos. Mmh.
Ben, l'intérêt, c'est précisément... Enfin, moi, ce que je pense, c'est ce que disait une sociologue au colloque sur contrôle de la psychiatrie d'avril 2014, dont les actes ont été publiés, d'ailleurs, hein, on le trouve sur la toile, Santé mentale à répercuter. Elle disait très justement qu'elle, ça fait longtemps qu'elle bosse sur le terrain, elle a jamais vu une explosion de témoignages comme de nos jours, en matière de psychiatrie. Et c'est sûr qu'à partir du moment où des personnes pouvant publier dans le quadrilatère de Saint-Germain-des-Prés, entre Odéon et rue du Bac... C'est sûr que ça passe à la télé le soir.
Exactement.
Alors, ce que disent Aude Dassonville et Solène de Royer dans Le Monde, donc ça c'était avant-hier, le journaliste qui co-anime chaque matin la matinale de France Inter révèle dans un essai la maladie mentale qu'il touche, un récit poignant et courageux dans lequel il raconte son parcours médical tortueux. « Je suis un malade mental », c'est le titre.
Oui.
C'est assez courageux, hein. C'est assez courageux. Parce que les gens, dans l'ensemble, auront plutôt tendance à dire « J'ai une atteinte, mais je ne suis pas malade. » Ce qui n'est pas pareil. Bon. Donc, Nicolas Demorand, mot précis qui a remplacé manaco-dépressive, la bipolarité. Depuis 20 ans, 30 ans, peut-être le journaliste qui co-anime depuis 2017 la matinale de France Inter alterne les phases up maniaque, euphorie malsaine et énergie noire et les phases down, dépressive, caractérisées par une fatigue insondable, des souffrances psychiques insoutenables, il emploie le mot martyr, une envie de mourir. Entre les deux, il respire dans l'attente inquiète que l'une ou l'autre de ces phases se manifeste. Ce qui me définit aujourd'hui, c'est d'être divisé, résume-t-il. Dans un texte court, à le temps est dense, Nicolas Demorand raconte son parcours médical lent et tortueux, jalonné d'échecs, des séjours en hôpital psychiatrique, des médicaments inutiles, des généralistes impuissants, des heures perdues en analyse. Il y a bien des fois, sur bien des atteintes, on ferait bien d'être comportementaliste. Hein. Des années d'errance avant qu'un diagnostic soit enfin posé en 2017, son livre est aussi un réquisitoire contre la médecine. Je ne comprends toujours pas aujourd'hui pourquoi personne n'a su sérieusement s'intéresser aux causes et au mal, au lieu de mal me soigner, de mal en soigner les effets. C'est vrai que c'est les effets, pas la cause, qui sont pris en charge, ça c'est sûr. Manifestation de la crise de la psychiatrie, avance-t-il, ou mépris pour ces malades qu'on ne veut pas voir. La rencontre d'un psychiatre de l'hôpital Sainte-Anne, mon sauveur, entre guillemets, lui permet de trouver un traitement qui enfin le soulage. Un autre médecin prend le relais, un homme de grande taille, mince, sec, qui lui fait penser à un musicien allemand. Ce dernier délivre son diagnostic sans appel, bipolarité, fin de l'errance. Si je ne serai jamais guéri de cette maladie, la traversée avec ce médecin toujours de mon côté reste l'une des plus belles aventures de ma vie, écrit-il. À la fin du livre, les soignants de Sainte-Anne sont les premiers qu'il remercie. Le fer rouge de la honte sociale. Je suis un malade mental dans un monde qui ne sait pas ce qu'est la maladie mentale. Abruptes, ces mots inauguraux jaillissent comme un exutoire après des années passées dans la peur, le silence, la honte brûlante d'être un être failli, la peur de tout perdre en avouant sa maladie, s'ajoute le poids du silence, la dissimulation et le mensonge, excepté une poignée d'intimes dont l'amie lumineuse Léa Salamé, très néo-réactionnaire, qui sait tout depuis longtemps, mais ça ne veut rien dire. L'appartenance politique ne veut rien dire en la matière. Ouais, qui sait tout depuis longtemps, l'aide et le soutien, son meilleur ami Ali Badou, lui aussi journaliste à France Inter, son frère a un cousin, il n'en parle à personne. C'était bien les vacances, lui demande-t-on. À la fin de l'été, je me suis reposé à l'utile, taisant les jours entiers passés sur son canapé, à ressasser dans la pénombre. La maladie mentale qui marque au fer rouge de la honte sociale reste sans doute l'un des derniers tabous pris dans un nuage de mépris, de déni et de morale. Écrire pour se libérer, donc, mais aussi pour aider ceux qui souffrent en silence du même mal, les inviter à rompre l'isolement, il aimerait que son livre ait valeur d'exemplarité, car en dévoilant sa bipolarité, Demorand proclame qu'on peut travailler, occuper de lourdes responsabilités, copiloter la première émission de Radio France, tout en étant malade. La radio est comme un exosquelette qui le tient. Même s'il paye le prix fort de cette vie de moine soldat, mauvaise en soi, comme davantage, encore davantage pour lui. Les questions du bonheur et du sens. Le processus d'écriture n'a pas été sans risque. L'euphorie des débuts a été balayée par une vague noire qui l'a contraint à tout arrêter pendant des mois. Écrire sur la maladie m'est apparu comme une possibilité de me la réapproprier et de desserrer tous les étaux, honte, silence, mensonge, solitude, souffrance, mélancolie, qui après quasiment 10 ans d'hôpital me laminèrent, raconte-t-il, avant de comprendre sidéré que l'écriture accentuait, aggravait les cycles. Bah, c'est cathartique, mais c'est aussi une rouverture de cicatrices, évidemment. La maladie l'a forcé à ralentir, à s'éloigner d'une version ancienne de lui-même, journaliste brillant, vorace et ambitieux, qui vivait dans la projection permanente d'un poste à l'autre, s'employant à réussir à paraître sans être effleuré par le doute. Contraint, il a dû faire l'apprentissage de la fragilité. En filigrane, les questions du bonheur et du sens viennent hanter ce récit franc et poignant lumineux. Quand as-tu été heureux, se demande-t-il à lui-même, et c'est vertigineux. Le diagnostic enfin posé, puis les traitements adaptés, assortis d'un suivi serré à l'hôpital Sainte-Anne, ont amorcé une nouvelle étape, une renaissance, une chance, un miracle. Même s'il attendait alors une nouvelle épreuve, accepter que la vie retrouvée permise par le lithium, notamment, n'était pas une explosion de contrastes et de couleurs acidulées, mais comme le lui a suggéré son psychiatre, de couleurs grises, tout simplement, une habitation réelle, apprendre à vivre. Donc en fait, il nous apprend que le traitement qui l'a stabilisé est le traitement ancien.
Oui.
Avant que le valproate de sodium soit systématisé. Oui. Si je comprends bien, c'est ça.
C'est un médicament qui était le plus utilisé avant l'apparition, oui, effectivement, du valproate de sodium. Alors,
sous la forme du
Dépakote.
Du Dépakote. Alors, donc, ce qu'on peut tirer, c'est que... Bon, de toutes les façons, c'est une bonne chose que ce genre de coming out ait lieu et que ça sorte d'un bout à l'autre de l'échiquier politique. Hein, puisque, après tout, il y a Sandrine Rousseau qui a fait état des crises suicidaires qu'elle se farciait, donc d'un suivi qui est le sien. Donc, c'est pas plus mal que ça sorte. Mais bon, il ne reste pas moins que la psychiatrie, c'est une discipline où le bas de tableau de la société en prend juste plein la figure et n'est pas soigné. On ne peut pas parler de soins pour les gens du menu peuple. En psychiatrie, c'est juste pas possible. Hein. Alors, donc, ces inégalités restent en place. Alors, donc, ça, c'était la deuxième information. La troisième information, c'était donc la notification des droits des patients aux soins sans consentement doit être améliorée. Donc, une étude de la FIRA souligne l'importance d'améliorer la notification des droits aux patients aux soins sans consentement. Ce processus peut être le point de départ d'une alliance thérapeutique. On fait une pause ?
Ok.
Lèche-pas de blues, fais le lèche-pas de blues. et basta. Oh, je vous aime, je vous aime. C'est vous, je vous aime. J'aime tous les hommes politiques. Ils sont si sincères et si sympathiques. Oh, je les aime, je les aime. J'aime, j'aime. Je fais le lèche-bot blues. Lèche-bot blues. 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 Je fais le lèche-bot blues. Je fais le lèche-bot blues. Je fais le lèche-bot blues. Tout le monde sait que c'est le lèche-bot blues. On fait le lèche-bot blues. Lèche-bot blues. On fait le lèche-bot blues. À force de lécher ma langue grave, bébé, j'aime le.
Eddie Mitchell, Lèche-Bot Blues, sur Radio Libertaire, 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, de la Fédération Anarchiste, et dans l'émission L'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et nous poursuivons notre tour de l'actualité concernant la psychiatrie, avec André Bitton.
Alors, rebonjour. Donc, alors, une dépêche d'Aspi Média nous apprend, de Madame Edoxie Allier, nous apprend donc qu'une recherche de la FIRA qui avait été lancée en 2022, à peu près 2023, souligne l'importance d'améliorer la notification des droits aux patients en soins sans consentement. Ce processus peut être le point de départ d'une alliance thérapeutique. Alors, j'avais été contacté par cette étude, la fondatrice et directrice. Une personne malvoyante de l'association Droit Pluriel, Anne-Sarah Kertudou, qui est une personne non-voyante hein, de naissance, avec de solides appuis, sachant que sur le handicap, les non-voyants, les malvoyants, en tout cas les non-voyants, ont été parmi les premiers handicapés civils à s'organiser. Indépendamment des grands blessés de guerre, hein, puisque la première catégorie de handicapés en France à être compensée sur les fonds publics ont été les blessés de guerre, les mutilés de guerre. Donc, ils sont organisés depuis le 19e siècle. Et ce handicap n'est pas stigmatisé comme l'est terriblement le spectre des pathologies mentales. Donc j'avais été contacté afin en quelque sorte de participer à cette étude, laquelle a été menée sur le terrain par un doctorant, Monsieur Jean Bien-Aimé, lié au laboratoire sur la recherche sur l'expertise expérientielle du GHU Sainte-Anne. Donc j'avais été contacté in fine pour la 7e, 8e ou 9e fois, pour être un expert d'expérience, recruté comme cobaye humain par ces messieurs-dames, sans égard au militantisme qui est le mien, et sans égard au fait que j'avais fait savoir publiquement que je refusais de collaborer avec les institutionnels, etc. etc. Donc j'avais dit gentiment, autant que faire se peut, Madame Anne-Sarah Kertudou, que la collaboration entre nous était stoppée, Et à Monsieur Jean Bien-Aimé, avec qui j'avais un rendez-vous il y a 2 ans dans un café pour discuter un peu de son projet et de voir éventuellement ma participation à son projet et à son doctorat, je lui avais donc dit, bah, écoutez monsieur, d'abord indiquez vos coordonnées, ce qu'il avait refusé de me donner. J'ai dit, bah, écoutez monsieur, moi je ne marche pas avec des gens qui sont dans les logiques institutionnelles, qui n'ont strictement rien de contestataire, qui n'ont pas idée de l'inhumanité de ces institutions. Et donc, monsieur, je ne participe pas à votre travail de recherche et vous êtes prié de me retirer de votre liste de mails et j'en fais autant avec vous. J'avais dit la même chose à Madame Anne-Sarah Kertulos, ce qui n'empêche pas que j'ai de l'estime pour son entreprise et pour ce qu'elle fait. Hein. C'est pas la question. Donc, alors, ils ont sorti un savant rapport établissant ce que le groupe Information Asile avait établi depuis des décennies, à travers notamment les travaux de Philippe Bernardet, à savoir que si l'on veut nouer une alliance thérapeutique avec des patients en psychiatrie, il faut d'abord respecter leurs droits. Et pour respecter leurs droits, il faut leur faire connaître. Et que donc, la notification et l'explicitation aux patients retenus sans leur consentement de leurs droits est une des toutes premières étapes pour faire une alliance thérapeutique entre l'équipe et le patient. Et se pose la question, et on en avait débattu notamment dans un colloque de la FNAPSI en 2014 au ministère de la Santé sur la personne de confiance, à qui confier cette mission sur l'information sur ses droits des patients ? Sachant que le contrôle général des privations de liberté avait eu l'occasion de constater qu'une équipe de soins étant censée faire le bien du patient contre son gré, n'allait pas donner à ce patient les moyens de contester le bien qu'on lui fait. Bien. Sachant, c'est la fameuse blague que j'avais fait adopter à ces messieurs-dames lors d'une visite d'inspection en France du comité de prévention de la torture 2 jours après les attentats de novembre 2015, à la fin de notre audition, très sérieux, j'ai montré un texte universitaire, demandé une inspection du UMD, etc. Je leur avais sorti pour un éclat de rire. Quelle est la pire des choses qui puisse vous arriver en France ? Vous ne le savez pas, qu'on vous veuille du bien. Si en France on veut du bien, ça va carteler pour vous. Donc il est évident que dans des conditions pareilles, une équipe qui veut du bien à ses patients sans soins, sans consentement, ne va pas leur communiquer les moyens de contester le bien qu'on fait aux patients. Et que donc il s'agirait d'impliquer des tiers. Et là-dessus, ils ont fait cette étude pour quand même faire valoir qu'éventuellement, à titre de protocole expérimental, toujours, on pourrait impliquer des pères aidants pour faire tiers entre l'équipe et les patients. Et là encore, on revient à ce qu'on avait discuté au colloque de la FNAPSI en 2014. En 2014, hein, c'était il y a 11 ans. Hein, oui. À savoir que si l'on pose comme intermédiaire pour la notification et l'explicitation de ses droits à un patient sans consentement, un père aidant professionnel qui est un agent de l'hôpital. Cet agent de l'hôpital aura la même relation de subordination qu'un membre de l'équipe par rapport à sa direction. Et que donc ce père aidant aura aussi peu de latitude qu'un personnel paramédical ou médical par rapport au patient. Se pose donc la question d'impliquer un professionnel du droit. Donc qu'il y ait éventuellement, ça serait peut-être la moins pire, la meilleure des solutions, ou parmi les solutions peut-être la plus adéquate, la solution hollandaise, d'adopter dans chaque hôpital un ombudsman, un médiateur indépendant, ayant une indépendance statutairement garantie, qui aurait comme fonction notamment de faire cette interface entre les patients retenus sous contrainte et l'équipe. Bien. L'autre solution est de mettre des permanences juridiques de professionnels appointés, de professionnels du droit en bonne et due forme, mais sous quelle tutelle, qui les appointerait, ce serait encore une fois à condition que leur indépendance soit garantie. Et donc on est pratiquement 35 ans après la loi du 26 juin 1990, qui avait été la première législation en France à poser cette exigence. Les droits des patients, ça existe. Les patients doivent être informés sur leurs droits. C'est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 1990. Et donc, on est toujours à faire de savants rapports avec des patients cobayes pour savoir si éventuellement pour avancer sur cette question.
Pendant la période où il y avait un JLD qui statuait sur
C'est toujours le cas.
C'est toujours le cas, mais il a été remplacé par un juge
judiciaire.
Judiciaire. Oui. Et il me semble qu'il y avait eu des mains levées au motif que de ce que les patients n'aient pas été informés de leurs droits.
Évidemment.
Voilà.
Évidemment. Et il y a même eu des, il y a même eu de la jurisprudence de la Cour de cassation avant que la Cour de cassation considère de manière à peu près stable que le simple défaut d'information d'un patient sur ses droits et voies de recours n'était pas en soi une irrégularité telle que cela devait ou que cela pouvait provoquer la main levée, mais bien une irrégularité dans l'exécution de la mesure, pas dans son édiction, et qu'il appartenait donc au patient de se prémunir, par exemple, en demande indemnitaire contre cela. D'accord. Rejoignant en cela un vieil arrêt du Conseil d'État, de principe du 28 juillet 2000, un arrêt de principe qui avait été commenté, d'ailleurs, au Lebon, et qui avait permis au juge libérateur, au JLD et autres, de neutraliser cette question. Qui a été dans l'ensemble neutralisé, comme on le sait maintenant, avec la neutralisation du contrôle judiciaire des hospitalisations sans consentement, avec le durcissement de la jurisprudence de la Cour de casse, progressivement depuis 2017, mais surtout depuis le confinement, depuis 2020. À savoir que les magistrats, lorsque l'on soulève des irrégularités, de par la jurisprudence devenue constante de la Cour de casse, viennent vous dire sur les irrégularités de droit, de genre là, le défaut d'information, le certificat médical n'a pas été produit en heure, viennent vous dire, prouvez-nous qu'il y a eu une atteinte au droit de la personne sur la base de ce grief, sur la base de cette irrégularité. Prouvez-nous que les droits de la personne ont été atteints. Et pas seulement que cette irrégularité porte en soi un grief tel qu'on doit donner la main levée. Bon, donc toujours, c'est toujours cela.
D'accord.
Donc, mais là-dessus, c'est pas tellement la question. C'est que il faille en venir. Le problème, c'est que cette information est due. Point. Comme à n'importe quelle personne privée de liberté. Et que donc, il faut en venir à faire valoir des arguments de plus en plus sophistiqués, de plus en plus appuyés sur les jurisprudences des hautes cours et des cours internationales, notamment la Cour européenne des droits de l'homme, pour obtenir un élargissement sur la base d'un manquement de droit coutumier. Bon, enfin, écoute, je suis vraiment désolé. Il est constant que lorsqu'on prive une personne de liberté, fût-ce motif psychiatrique, on lui doit des explications, on lui doit lui ouvrir un droit de défense et lui expliquer les modalités ou ce qui lui reste comme recours. On le doit à une personne privée de liberté. Donc, ce qui est choquant là-dedans, bon, c'est intéressant, la FIRA est intéressante, c'est vrai, si on y misait des pères aidants, ça serait mieux, on pourrait avoir l'alliance thérapeutique, etc., et on pourrait court-circuiter les protestations des patients. Et c'est aussi ça que ça veut dire. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme d'habitude, au niveau institutionnel, on commet... Et moi, le mieux, c'est qu'on m'a demandé de participer à cela. Et moi, je suis vraiment désolé, mais ça va en sens inverse de mon engagement depuis 35 ans. Je me suis jamais engagé pour participer à neutraliser dans les participations à des études institutionnelles complètement inodores et sans saveur, les protestations légitimes des personnes. Bon. C'est que... On met du fric sur la table, l'argent de la Sécurité sociale, la FIRA, c'est un budget issu de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité sur l'autonomie, ce qui est un budget détaché chaque année du budget de la Sécurité sociale pour le handicap. La CNSA gère les budgets handicap. Voilà. Et donc, on dégage du budget pour faire des études savantes et distribuer un peu de thunes à des chercheurs académiques dans un endroit parmi les plus académiques de France, pour que, sur la base d'un savant rapport, on envisage que les personnes psychiatrisées sous contrainte aient un peu plus de dignité qu'avant, à titre expérimental. Ben moi, je suis désolé, ça me choque, et ça fait longtemps que ça me choque, et je trouve même qu'il y a matière à dénoncer cela. J'avais commis un commentaire ironique sur Hospice Média, en disant, très formel, il est évident que pour une question aussi élémentaire, l'information des patients internés sous contrainte sur leurs droits, qui aurait dû être solutionnée depuis des lustres, pas depuis 1838, mais au moins depuis 1990 ou depuis 2011, on se doit de continuer à produire de savants rapports. Coluche, dans son sketch sur la réforme de la loi de 1838, envisagée en 1982 sous Mitterrand, le rapport de mai auprès de Jacques Ralite, sous Mitterrand I, le disait si bien, les aliénés patientent depuis 1838, ils peuvent toujours attendre. Alors, passons à une jurisprudence de la Cour de cassation du 19 mars, qui a été analysée et publicitée par un commentaire du magistrat Cédric Hélène, docteur en droit chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille et conseiller auprès de la Cour d'appel. La première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 mars, revient sur la circonstance de la fugue du patient dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement préfectoral en application de l'article 32.13.1 du CSP, du Code de la Santé publique. Une telle fugue ne permet pas à elle seule de justifier la main levée de la mesure. La personne était en fugue depuis un an, ça faisait un an, et donc avec son avocat, bah, elle revient, voilà. Bon, tout se passe bien, la fugue se passe bien, monsieur et madame la juge, donnez main levée, voilà, ça n'a pas lieu d'être puisque tout se passe bien. Eh bien, la Cour de cassation trouve que non, c'est pas tout à fait ça, etc., etc. Alors, se pose plusieurs questions. Lorsqu'on veut régulariser une fugue qui dure depuis pas mal de temps, le patient doit-il se représenter lui-même dans le service avant d'accéder au juge? Doit-il être présent à l'audience devant le juge, même s'il n'a pas réincorporé le service? 2. Donc, est-ce qu'il doit être présent ou est-ce qu'il peut être représenté? 3. Que doit-il produire? Et c'est là où on en revient à ce que faisait le groupe Information Asile il y a 30, 35 ans, 40 ans, les évasions autour de Pierre Courson. À savoir que, certes, la personne était extraite de villes juives, Maison Blanche, Sainte-Anne, etc., ou l'autre, Père et Vaucluse, mise à l'abri, mais on la faisait voir et certifier par le professeur Henri Baruc de l'Académie de médecine, qui était comptésintellement abusif et qui certifiait en tête de l'Académie de médecine que l'individu interne n'était pas été indemne de pathologie mentale et que la mesure se justifiait pas, etc. Et suite à une requête en main levée, en sortie immédiate devant le président du tribunal de grande instance, le certificat médical du professeur Baruc était produit. Donc c'était pas eu égard également au fait que la personne depuis des mois n'avait pas fait parler d'elle. Il n'y a pas eu le scandale sur la voie publique, etc., etc. Donc en soi, c'est un élément de plus sur la stabilisation. Alors, ce que dit Cédric Hélène, c'est pas la première fois que la Cour de cassation se pose sur ces questions. Elle avait eu, notamment dans un arrêt de 2018-2019, l'occasion de préciser, dans le cadre d'un arrêté préfectoral, que lorsque la personne est amenée dans un service d'urgence, avant que l'arrêté préfectoral ne soit pris, c'est-à-dire sur la base, par exemple, d'un arrêté municipal provisoire, bon, et qu'elle trouve moyen de se retirer des lieux, donc de fuguer.
Oui.
Attention, le mot fuguer n'est pas neutre, ça implique qu'on est un mineur. Fugue veut dire, ça veut dire aussi...
Ah, c'est lié, il n'y a pas d'adulte qui fugue.
Non.
D'accord.
Voilà. C'est-à-dire, on considère, exactement, on considère que la personne malade mentale qui s'évade d'un service est à l'instar d'un éternel mineur et que l'on parle de fugue. Donc on retire d'office, et juridiquement parlant, y compris dans la jurisprudence, sa majorité aux personnes.
Ah oui, d'accord. Donc elle est majeure, mais elle fugue quand même parce qu'on l'infantilise en quelque sorte.
Le regard social et juridique qui est porté aux personnes atteintes de troubles mentaux et hospitalisées, ça appartient d'ailleurs à ce chapitre précis du droit public, police spéciale, police des aliénés. Parce que c'est sous ce chapitre. Le regard qui est porté enlève aux personnes leur appartenance à l'être humain, à l'humanité majeure, et la rétrograde à une éternelle minorité. Bon. Donc, vers 2018-2019, la Cour de cassation avait considéré qu'une personne qui se retire d'un service d'urgence avant que la préfecture ne prenne son arrêté préfectoral, du fait que la personne n'est pas là présente, la préfecture ne peut pas prendre cet arrêté. Donc, il y a tout lieu de fuguer avant que l'arrêté préfectoral soit pris.
Déjà, oui. Alors que ce qui arrive à ce monsieur K...
Alors, donc, c'est pas tout à fait ça.
C'est pas la même chose.
Alors, à l'origine du pourvoi, on retrouve sur arrêté provisoire du maire, confirmé par arrêté du préfet, un patient admis dans une unité de soins psychiatriques sans consentement le 15 mars 2022, sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 14 juillet 2022, avril, mai, juin, juillet, 4 mois, l'intéressé prend la fuite. Deux ordonnances du juge des libertés de la détention maintiennent la mesure d'hospitalisation complète le 23 septembre 2022 puis le 21 mars 2023. Il est possible, selon la nouvelle législation, de maintenir sur avis médical, non pas sur certificat, mais sur avis médical, la mesure de personnes qui ont fugué, qui sont évadées, mais simplement au dossier. Par un avis. Un avis, ça n'a pas la même rigueur qu'un certificat. Un certificat, le médecin doit avoir vu la personne pour en certifier. Bon, donc ça fait partie de leur possibilité. Le patient demeure toutefois introuvable. Deux nouveaux avis médicaux sont émis le 12 et 17 mai 2023, indiquant que, vu que le patient avait fugué, il conviendrait de lever la mesure. Ça, c'est les psychiatres de l'hôpital. Le préfet maintient cependant cette dernière. Le 4 septembre 2023, le directeur d'établissement saisit le juge des libertés de détention pour statuer sur la mesure en question, ennuyé, sachant pas quoi faire.
Qu'est-ce qu'on entend par statuer, alors, dans ce cas-là ?
Eh bien, est-ce que le juge maintient ou lève ? Statuer, c'est décider.
Oui, voilà, d'accord.
Statuer, c'est décider.
Donc, y a pas de...
Le directeur d'établissement, donc ennuyé, parce que ses médecins certificateurs prescrivent, demandent. En fait, le médecin certificateur, dans le cadre d'une HO, demande à la préfecture, à l'ARS, pour la préfecture, il demande. Mais en même temps, c'est une prescription, c'est une ordonnance. Donc, il est quand même co-décideur. Et donc, comme tout a été fait pour retirer au médecin du cadre un pouvoir d'ordonnance et de décision sur les malades, voilà, il y a une querelle de pouvoir. Donc... Le 4 septembre 2023, le directeur d'établissement saisit le JLD pour statuer sur la mesure en question, lever ou maintien. En cause d'appel, le premier président saisi décide de considérer l'hospitalisation complète irrégulière à dater du 17 mai 2023, c'est-à-dire à dater du moment où un avis médical demande la levée. Bon. Bien. Il prononce par conséquent la main levée de la mesure puisque l'avis médical s'imposait au préfet en pareille situation. Donc il redonne en compétence liée, c'est en droit ce qu'on appelle une compétence liée, à savoir qu'il considère que la préfecture est liée à l'avis médical qui s'impose à ses services.
Autrement dit, un préfet qui n'y connaît rien en psychiatrie va se relier au psychiatre pour pouvoir ordonner le maintien. Ou
Oui, enfin, sous la nuance que la mesure de SDR est une mesure de police.
Oui, c'est vrai, oui.
Bon. Donc c'est ce qu'on appelle la compétence liée. Eh bien, la Cour de cassation va contre cette compétence liée. Pourquoi ? Parce que sur un terrain aussi sensible pour les libertés publiques, mais aussi pour la sûreté intérieure, les préfets entendent avoir leur pouvoir de décision sur les mesures préfectorales, un point, c'est tout. Et là-dedans, l'exécutif est clair, l'exécutif et les préfectures. Nous sommes les décideurs. Vous nous demandez, et les psychiatres de l'établissement n'entendent pas tout à fait sur cette oreille, parce qu'ils ont perdu un pouvoir qu'ils avaient avant. Hein.
Voilà, une concurrence quelque part.
Oui, c'est une guerre de pouvoir. Ouais. Ouais. Alors, le préfet se pourvoit en cassation en considérant que ce raisonnement n'est pas pertinent. Il estime que le médecin avait conclu à la main levée de la mesure uniquement en raison de l'impossibilité d'évaluer l'état de santé du patient. L'arrêt rendu le 19 mars 2025 aboutira en effet à une cassation pour violation de la loi et donne ainsi à la Cour l'occasion à la Cour de publier au bulletin de la Cour. Hein, donc on en fait une décision de principe une décision sur la thématique de la fugue du patient, finalement assez rarement sous le feu des projecteurs. Donc la Cour de cassation revient là-dessus et ce qu'elle dit, c'est que la seule fugue, même depuis longtemps, et le fait qu'on ne puisse pas vérifier l'état de santé du patient n'est pas en soi un motif pour donner la main levée. Voilà. Et là, on en revient à ce que faisait le GIA auparavant, à savoir se faire garantir par un certificat médical d'un professeur de psychiatrie ayant vu le patient.
Ouais. Et éventuellement que ce ne soit pas le même psychiatre que celui qui
a... Mais le professeur Henri Baruch n'exerçait plus, il était retraité, mais il était à l'Académie de médecine, il avait été médecin directeur des hôpitaux psychiatriques, il était contre l'internement abusif, et à son domicile où il continuait d'officier, même étant non-ingénaire, la personne venait en disant « Professeur, je ne suis pas malade », et puis il faisait le certificat. Voilà. Et bon, après, ça a marché pour des personnes en nombre quand même. Donc, si la question suscitée par le pourvoi pose une certaine difficulté en jurisprudence, c'est parce que les textes du Code de la santé publique sont muets à ce sujet précis. Ils ne donnent pas une réponse explicite à cette interrogation. Leur combinaison par la réétudier, aujourd'hui le montre parfaitement. La première chambre civile édicte ainsi une solution qui jusque-là n'avait pas été aussi clairement précisée, selon laquelle le représentant de l'État n'est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète que si un second psychiatre confirme qu'une telle hospitalisation ne s'impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Et que tel n'est pas le cas dans l'avis motivé auquel la Cour d'appel a donné droit par le seul constat de la fugue du patient. Il aurait fallu, pour que la Cour d'appel fasse droit à l'avis médical, qu'il y ait un deuxième avis médical qui consolide ce premier avis. Et là, on en revient sur la validité de ce que faisait le groupe Information Asile à l'époque. Donc la première et la principale info de cela est que la seule fugue ne doit donc pas être considérée comme répondant au texte de l'article, etc. Cette disposition ne fait que d'évoquer au titre des certificats et avis médicaux la motivation au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Or, un patient qui a pris la fuite ne peut pas être considéré comme ne plus avoir besoin de soins de tels soins qui ont initialement expliqué la mesure débutée par le système de l'article 32.13.1 du Code de la santé publique sur la chaux. Cependant, il est tout à fait exact que pour des soins datant de mars 2022, avec une fugue en juillet suivant, et avec une demande de régularisation un an plus tard, on pouvait légitimement se demander si, en 2023, s'il était nécessaire de continuer la mesure sans le patient concerné. La décision étudiée ne vient pas identifier de difficultés précises à ce sujet. La mesure ne peut que poursuivre son cours, par conséquent, puisque par définition, aucun médecin ne peut dresser un état médical à jour d'un patient qu'il ne rencontre pas. D'où l'intérêt, et la technique des avocats, c'est celle-là, dans ces cas-là, on fait voir ce patient par un autre médecin à l'extérieur de l'établissement. À l'extérieur de l'établissement. Et l'on va devant le juge. Voilà. Alors, le problème, c'est que là-dessus, il y a tout un... La loi du 5 juillet 2011 a prescrit pour l'hospitalisation complète un contrôle obligatoire à 6 mois. Il y a un premier contrôle avant 12 jours, et 6 mois après, si l'hospitalisation complète est maintenue, un nouveau contrôle judiciaire obligatoire. Or, quand la personne fugue, elle est toujours considérée comme une hospitalisation complète, donc le contrôle obligatoire à 6 mois tombe. On est dans ce cas. Ouais. C'est-à-dire, j'ai pas l'impression qu'on ait été dans le cadre d'une saisine volontaire facultative. Donc voilà, toujours est-il que ce qu'il faut tirer de cela, c'est que si une personne fugue, quitte un établissement alors qu'elle est sous arrêté préfectoral, même si ça doit durer longtemps, pour régulariser sa situation, il faut de toute évidence se procurer un avis médical, un certificat médical favorable d'un médecin extérieur à l'hôpital et revenir avec avocat devant le juge des libertés et des détentions sans forcément réincorporer l'hôpital, hein, sans forcément dire je demande la régularisation de ma situation au regard de la mesure qui pesait sur moi.
Bien, on va écouter François Béranger, Tranche de vie.
Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages, c'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. La capitale, c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou de Charenton, c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer par où ce que mon père est passé, car j'ai connu 15 ans plus tard le même tracas, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Le matin, faut aller piétiner devant les guichets de la main-d'œuvre. L'après-midi, solliciter le bon cœur des punaises, des bonnes œuvres. Ma mère, elle était toute paumée, sans ses lapins et ses couvées. Et puis pour voir, essayer non, sans fric de remplir 5 lardons. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Pour parfaire mon éducation, il y a la communale en béton. Là, on fait de la pédagogie devant 60 mômes en furie. En plus de l'alphabet du calcul, j'ai pris beaucoup de coups de pied au cul. Et sans qu'on me l'ait demandé, j'ai appris l'arabe et le portugais. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. À 15 ans, fini la belle vie, t'es plus un môme, t'es plus un petit. Je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à frotter des pièces de bagnole, 9-10 heures dans un atelier. Ça vous épanouit la jeunesse, ça vous arrange même la santé. Pour le monde, on a de la tendresse, j'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. C'est pas fini. Quand on en a un peu là-dedans, on n'y reste pas bien longtemps. On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Je me faufile dans une méchante bande qui voyoute la nuit sur la lande. J'apprends des chansons de bruant en faisant des croche-pattes aux agents. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Bien sûr, la maison Poulaga m'agrippe à mon premier faux pas. Ça tombe bien, mon pote a de la veine, faut du monde pour le FLN. Je me farcis 3 ans de casse-pipe, Orescabil, Limitidja. Y'a de quoi prendre toute l'Afrique en grippe, mais faut servir le pays ou pas. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Quand on me relâche, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier. Y'a plus rien dedans, tout est cassé, j'ai même plus envie d'une mémé. Quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé. Faut dire que je m'étais amusé, alors balancer des pavés. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Les flics, pour ce qui est de la monnaie, ils la rendent avec intérêt. Le crâne, le ventre et les roustons, enfin quoi vive la nation. Le juge m'a filé 3 ans de caisse, rapport à mes antécédents. Moi je peux pas dire que je sois en liesse, mais enfin qu'est-ce que c'est que 3 ans. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. En tout, je vais pouvoir m'épanouir dans une société structurée. Je ferai des chaussons et des balais et je pourrai me remettre à lire. Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocage. C'est le village de Saint-Martin. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né.
Alors, dans une dépêche d'hier d'Ospimédia, il est annoncé cette information suivante. Les hôpitaux de Marseille annoncent un plan pour la psychiatrie prise dans la tourmente. Agression physique, violence sexuelle, fermeture de lit. Plusieurs épreuves ont ébranlé les services de psychiatrie des hôpitaux de Marseille. Des enquêtes internes sont actuellement diligentées dans ce cadre. Un plan d'action est annoncé par la direction en vue de reconstruire un climat de confiance et de bonnes conditions de travail. Les épreuves se succèdent depuis plusieurs mois pour les services de psychiatrie de l'APHM, l'assistance publique hôpitaux de Marseille, alors que commence le 31 mars le procès d'un psychiatre ayant exercé au CHU entre 2010 et 2020, accusé de viol de plusieurs dizaines de patientes. L'APHM, qui s'est portée partie civile dans cette affaire, est revenue sur la situation très difficile pour les équipes lors du dernier conseil de surveillance. Dans le compte-rendu diffusé le 27 mars, elle évoque ainsi un contexte de déstabilisation de l'offre de soins lié à des fermetures de lits, à la médiatisation du procès à venir du docteur Marc Adida, à plusieurs actes de violence récents au sein du pôle. Après avoir assuré de sa mobilisation totale l'ensemble des professionnels, la direction expose un plan d'action pour soutenir cette activité et ses soignants. Ne pas oublier que l'hôpital qui sectorise le nord de Marseille a été, mais de façon récurrente, l'objet de violences, de passions complètement toxico dans le coin, sur les personnels, de façon ahurissante, à telle enseigne que le syndicat Sud, qui est pourtant, bon, je veux dire, assez contestataire, ils ont posé un droit de retrait. Alors, remontée interne de problématiques majeures. Face à la multiplication des événements difficiles, le CHU rappelle avoir mis en place un dispositif d'écoute. Il faut bien voir que le docteur Marc Adida, qui est maintenant hors poste, hein, a été accusé d'avoir violé, pour le moins, plusieurs dizaines de patientes. Un cabinet extérieur composé de psychologues du travail et de juristes a été mis en place. Ce dispositif a fonctionné entre mi-octobre 2024 et février 2025 dans un cas strictement confidentiel. Dès le départ, l'engagement a été pris de restituer les résultats en toute transparence. Des sessions ont été organisées en ce sens au mois de mars. Au total, 68 entretiens ont été réalisés sur les sites de l'hôpital de la Conception et de l'hôpital Sainte-Marguerite. Les témoignages recueillis ont révélé plusieurs problématiques majeures, annonce l'établissement. Les médecins ont évoqué notamment des abus et violations des droits, mais aussi des atteintes aux droits des patients, des violences sexistes et sexuelles et une gestion défaillante des conflits. La direction a été changée, hein, d'ailleurs. Bon, j'ai eu l'écho que des médecins haut placés de la PHM entretiennent des relations tout à fait troubles, tout à fait perverses avec certains de leurs malades, franchement. Bien, voilà.
Eh bien, c'est ainsi que se termine l'entonnoir pour aujourd'hui. Merci André, et nous vous disons à la semaine prochaine.
Des cerises et guerres au rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Nous chanterons le temps des cerises. Sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on va te cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour. Sous la feuille en goutte de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les peurs. Qui ne craint pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un long. Vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises. De ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne saura jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir.
Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Chez moi, j'y ai poussé au fil des mois.